autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Chantal Laureau.
Bonjour, bienvenue à tous. La révolution numérique nous a-t-elle fait entrer dans un nouvel âge de l'humanité? Est-il raisonnable de vivre plus de 120 ans, limite absolue de l'espérance de vie jusqu'à présent, de rester jeune éternellement, voire de devenir immortel, comme en rêvent quelques gourous? Jusqu'où ira le transhumanisme? L'avènement de l'intelligence artificielle peut-elle signer la disparition de l'homme? Serons-nous un jour remplacés par des robots humanoïdes? On en parle dans un instant avec notre invité.
Batou, quelle partie de ton corps est toujours d'origine?
Eh, tu es déjà saoul?
Ah, si je le pouvais. Grâce aux implants fixés dans nos corps, il ne nous faut que quelques secondes pour assimiler l'alcool absorbé. Pas d'ivresse, pas de gueule de bois. On peut boire bière sur bière en attendant les ordres de mission. Depuis que l'homme possède la technologie, il a réalisé la plupart de ses désirs.
Quel âge as-tu en temps réel?
28 ans, moi j'en ai 105.
En réalité, il y a assez de temps pour tout le monde. Certains ont 1 million d'années, les autres vivent au jour le jour. Pour quelques immortels, beaucoup doivent mourir.
Quand vous êtes entré en regardant l'autre humain, qu'est-ce que ça voulait dire?
C'est quand on a confiance. C'est humain et tu peux pas comprendre.
Mon père essayait de m'enseigner les émotions humaines. C'est très... difficile.
Tu veux dire ton concepteur?
Oui.
Combien de temps j'ai été stocké?
250 ans.
Vous êtes la propriété de Lawrence Bancroft dans ce corps. Il est équipé d'un neurachem militaire et d'une musculature à mémoire de combat.
J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes. Dans la pluie. Il est temps de mourir.
Pascal Pic, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléo-anthropologue, maître de conférences au Collège de France, et vous venez de publier chez Alary Éditions Le Nouvel Âge de l'Humanité, les défis du transhumanisme expliqués à une lycéenne. Pourquoi avez-vous imaginé ce dialogue avec une adolescente en classe de terminale dans un lycée d'Afrique de l'Ouest?
Eh bien, parce qu'elle m'envoie un message à travers mon site, et elle me provoque un petit peu en disant, voilà, peut-être que je suis... une de ces jeunes personnes dans le monde qui vient, qui va vivre multicentenaire ou peut-être de manière amortelle, c'est-à-dire presque immortelle. Et en définitive, elle est en terminale, elle vient d'Afrique. Et c'est, je trouve, une idée originale que, sachant que nos origines sont africaines.
Oui, ça, que, vous aimez à le rappeler. Hein.
Voilà. Mais en plus, c'est toute notre discipline. C'est les grandes avancées depuis 30 ans de la paléanthropologie. Mais surtout de se dire, d'un côté, on a donc tous ces mouvements dits transhumanisme qui sont très, très divers, comme j'explique dans le livre, qui nous disent, ben, écoutez, l'homme est arrivé au terme de son évolution, enfin des possibles, en termes d'espérance de vie, en termes de bien-être, vie en bonne santé, etc. Et donc, pour aller plus loin, il faut s'en remettre aux technologies. Alors ça, c'est pas mal vu de Californie, parce que ça correspond évidemment à un état d'esprit, cet état du soleil, comme on l'appelle, où on a l'habitude de rendre réels les rêves. Mais qu'est-ce que ça veut dire depuis l'Afrique, avec tous les problèmes auxquels ce continent est confronté? Et puis surtout que, d'un côté, dans l'hémisphère nord, nous vieillissons. Hein, on tient notre démographie par le vieillissement et non pas par la natalité, et que l'évolution, au bout du compte, c'est quand même la descendance avec modification, comme disait Darwin, et un des rares continents sur lequel, avec ses problèmes bien sûr, il y a toujours une dynamique démographique, c'est l'Afrique. Donc je voulais créer ce dialogue, et puis surtout elle a un travail à faire. C'est son professeur qui dit à elle et ses camarades, écoutez, il y a quelque chose qu'on n'a pas bien compris dans l'évolution de l'homme, c'est le rôle des technologies sur ce que j'appelle la coévolution. Et ça, c'est très amusant parce que De manière générale, beaucoup de pensées humanistes ou philosophiques, même encore aujourd'hui, surtout en France, n'aiment pas du tout les sciences et encore plus de mépris pour les technologies. C'est conçu comme quelque chose qui prolonge notre puissance physique, par exemple. Alors qu'en fait, nous co-construisons depuis 2 millions d'années des relations, des actions à l'environnement et même des imaginaires complètement nouveaux à chaque fois dans ce rapport entre notre évolution biologique, physiologique et cognitive et les outils. Et aujourd'hui, le transhumanisme, évidemment, est en train de proposer une nouvelle étape de l'évolution humaine, mais avec des connaissances, des moyens et des technologies comme jamais.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire que les nouvelles technologies nous ont fait entrer dans ce que vous appelez un nouvel âge de l'humanité?
Parce que, en définitive, si on regarde cette coévolution qui est tout à fait particulière, en fait, la première coévolution nous concerne tous, toujours. Nos organismes n'évoluent pas seuls. Nous coévoluons avec
l'environnement.
Une multitude de micro-organismes. Alors, dans l'environnement dit naturel, ça semble évident, mais c'est pareil dans nos villes, avec ce qu'on appelle le microbiote aujourd'hui, ce qu'on mange, tous les micro-organismes, etc. Donc ça, ça continue. L'autre chose est que l'originalité, justement, de l'évolution de la lignée humaine, depuis 2 millions d'années, en Afrique, c'est là qu'apparaissent les premiers hommes, qu'on appelle Homo erectus, c'est que nous sommes des espèces très plastiques. C'est le terme un peu à la mode, mais c'est un vrai sens. Terme très plastique, d'un point de vue biologique et morphologique, c'est-à-dire la taille et la forme. D'un point de vue physiologique, le fonctionnement de l'organisme. Et d'un point de vue cognitif, donc le cerveau et ses fonctions. Et tout ceci rentre en interaction. Et comme nous sommes des espèces très plastiques, eh bien nous pouvons changer extrêmement rapidement. Je rappelle que avec les inventions, il y en a plusieurs, du feu, de la cuisson, de nouveaux outils, vous avez... Il y a 2 millions d'années avec ces premiers hommes, qu'on appelle les Homo erectus, très rapidement, une augmentation de la taille corporelle, cette bipédie qui est la nôtre, qui est tout à fait extraordinaire, parce que nous sommes une espèce incroyablement endurante, et puis surtout, le feu, ça nous protège, et la cuisson, ça permet de détoxifier une partie des nourritures végétales, et d'avoir une meilleure mastication et une meilleure restitution énergétique. Et à partir de là, le cerveau, qui est l'organe qui consomme le plus d'énergie, va se développer rapidement, et les conséquences sont à chaque fois les mêmes. Vous avez un déploiement des espèces humaines, en l'occurrence la première, sur l'Afrique bien sûr, l'Europe et l'Asie. Et il y a plusieurs étapes comme ça que je rappelle, et notamment ma génération. Je sais que on ne me voit pas là, on est à la radio, mais regardez ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, avec l'éducation, la médecine, l'hygiène, les meilleures conditions de travail, les avancées sociales évidemment, etc. Eh bien, qui aurait pensé, il y a 50 ans, que la génération dite des baby-boomers allait gagner 20 ans d'espérance de vie? Ben, vous voyez comment on peut changer très rapidement.
Mais
et aujourd'hui, le projet transhumanisme, c'est de prolonger cela.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'homme aura atteint sa limite d'adaptabilité.
Oui, alors ça, on aimerait bien, sauf que ça ne se passe pas aussi bien qu'on l'aurait cru. Soyons très clairs, le terme de transhumanisme, au départ, a été créé par un monsieur qui s'appelait Julian Huxley, qui est le frère d'Aldous Huxley, qu'on connaît pour le meilleur des mondes, qui critique justement cette vision qu'on n'appelle pas encore transhumanisme. Et quelle était l'idée de Julian Huxley, immense biologiste, mais aussi premier secrétaire général de l'UNESCO? Et là, l'idée de l'UNESCO, c'était après les drames de la Seconde Guerre mondiale, d'apporter l'ensemble de l'humanité vers une idée de progrès, qui vient des Lumières, avec donc une meilleure santé, éducation, la culture, et je rappelle aussi les sciences. Hein, le S de UNESCO, ça vient de... science. Eh bien, aujourd'hui, en effet, l'idée de John Huxley était donc d'aller vers les potentialités non encore exprimées grâce aux cultures, aux techniques et à la médecine pour l'humanité. Et aujourd'hui, on l'a quasiment, mais on y reviendra, atteint. Et l'idée des transhumanistes, c'est de se dire, si on a fait notre mieux possible, maintenant, ça ne peut être que de l'ordre des nouvelles technologies.
Come gather around me. Admit that the waters around you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Come writers and critics and prophesize with your pen. Keep your eyes open, the chance won't come again. And watch what you say, for the wheel's still in spin. There's no telling who that is naming. Oh, the loser now will be later to win. For the times, they are a-changin'.
Some senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he who gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging. We'll rattle your windows and shake down your walls. For the times they are a-changing.
The times they are changing, the birds sur RFI. Pascal Pic, est-ce qu'on peut dire que la pierre angulaire du programme transhumanisme, c'est l'immortalité ?
Non, pas vraiment. C'est effectivement un affichage qui nous fait réagir, parce que dès que vous parlez d'immortalité, vous imaginez bien, vous touchez aux questions fondamentales qui occupent l'humanité depuis qu'elle est consciente de sa finitude, de la mort, de son devenir. Donc ça, effectivement, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais il y a différents mouvements dans le transhumanisme, et il est très clair... On va faire simple, il y en a trois. Il y en a un qu'on va appeler techno-progressiste, c'est-à-dire que ces nouvelles technologies arrivent et il est très clair que très vite, elles vont coûter assez peu cher. Un des débats est là, ils disent « Attendez, mais ça c'est un truc de riche. » C'est ce que me dit ma jeune interlocutrice dans le livre, elle dit « Ben oui, mais ça, ce sont des problèmes de riches. » Cette année, plus de la moitié de l'humanité aura un smartphone. Et c'est une technologie qu'on n'avait pas encore il y a pas si longtemps que cela. Donc ça, un des premiers arguments est de se dire que grâce à la médecine connectée, à la capacité de connaître ce que fait notre corps, nos activités, nos besoins, etc., ce qu'on appelle donc la santé, donc, j'ai déjà dit, pardonnez-moi, connectée, et de suivre les traitements, et de même d'être préventif, c'est ça qui est important, eh bien, ceci bénéficiera, bien évidemment, à l'ensemble des populations humaines qui amélioreront leur espérance de vie. Ça, c'est la première chose. Donc là, ces personnes-là, c'est par exemple Joël de René, qui est un excellent représentant de cela.
On va écouter tout à l'heure.
Et donc, on a vu les progrès de la technique et de la médecine pour ma génération, donc les gens de 50 ans, 60 ans. Donc ça va venir. Il y a un mouvement, lui, qui est tout à fait différent, qu'on appelle la singularité. Alors ça, c'est une université qu'on appelle l'université de la singularité, qui est donc en Californie, qui est financée par les plus grands acteurs du numérique, qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, etc. Et là, ils disent, en effet, pour 2030, enfin en général, ça ne tient jamais ce genre de date, mais qu'importe, ils disent que d'ici 2030-2040, on aura des machines avec l'intelligence artificielle qui seront meilleures que les hommes, ce qui ne sera pas vrai, mais elles sont meilleures dans d'autres domaines, ce qui est déjà le cas, et que par ailleurs, nous franchirons une étape. Pour eux, le transhumanisme, c'est apporter toutes ces technologies pour améliorer toutes nos fonctions corporelles, notamment lutter contre le vieillissement, en l'occurrence.
On va y venir.
Et surtout de se dire qu'à partir d'un moment, on va basculer dans un autre monde qu'on appellera post-humaniste. Et puis, il y a des mouvements un peu plus éthiques qui se posent la question de savoir comment faire en sorte que ces technologies puissent bénéficier à tout le monde. Et alors là, il y en a qui sont plus radicaux. Vous savez qu'il y a un mouvement, par exemple, que je rappelle, qu'on appelle l'écologie radicale, qui dit, après tout, l'homme fait tellement de dégâts, et il en fait, hein, sur la nature, c'est le moins qu'on puisse dire. Après tout, bon débarras, et nous laisserons une autre intelligence que nous aurons co-construite avec les robots, l'intelligence artificielle. Et là, ça sera sans les humains. Donc vous voyez, il y a trois approches complètement différentes.
Ah, vous parliez du refus du vieillissement, on peut aussi parler de l'obsession du rajeunissement. Ouais. Je vous propose, Pascal Pic, d'écouter ce qu'en pense le philosophe Jean-Michel Beignet.
Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement qui veut satisfaire les aspirations de l'espèce humaine en supprimant à peu près toutes les propriétés de cette espèce humaine? Qu'est-ce que ça veut dire que de prétendre se servir des biotechnologies pour supprimer la naissance et pour la remplacer par la fabrication de l'humain? Qu'est-ce que c'est que cette volonté farouche de supprimer tout ce qu'il y aurait de douloureux dans l'existence humaine? Qu'est-ce que c'est qu'un humain sans inquiétude existentielle? Qu'est-ce que c'est qu'un humain qui ne serait plus malade, mais simplement en panne de temps en temps et qu'il faudrait réparer? Est-ce que cet humain-là correspond à l'idée que moi je me fais de l'humain quand je considère que la maladie est toujours une épreuve chez les humains que nous sommes, et cette épreuve, eh bien, on en sort toujours différent. Il y a une composante symbolique dans la maladie que l'objectif de réparer l'organisme défaillant ne prend pas en compte. C'est une des questions, des objections que je peux formuler aussi au transhumanisme. Et puis qu'est-ce que c'est que ce courant d'opinion qui veut en finir avec la vieillesse? Comme si la vieillesse c'était le diabolique dans l'humain. Qu'est-ce que ce serait qu'une société qui ne pourrait plus voir en peinture ses vieux?
Pascal Pic, vous partagez l'inquiétude de Jean-Michel Beignet, ou est-ce qu'il y a du positif quand même à trouver, par exemple, dans les nanotechnologies, dans la création de nanorobots qui seraient capables de traquer dans notre corps des cellules malignes, par exemple?
Oui, ben ça va se faire, de toute façon, ça se fait déjà. Alors, sur la naissance, je suis d'accord avec mon ami Jean-Michel Beignet. C'est un vrai problème parce que l'adaptabilité d'une espèce est basée sur la machine à faire de la différence. Donc, imaginez que des personnes, et ça va être bientôt le cas, et c'est déjà le cas d'ailleurs, que nous ayons accès à la cartographie de notre génome et que nous puissions détecter les maladies possibles. Or, ça se fait déjà, c'est le pronostic préimplantatoire. Je rappelle quand même dans ce livre que beaucoup de choses qui semblent des annonces tonitruantes de transhumanisme, ça existe déjà. Soyons très clairs, ce qu'on appelle l'eugénisme positif. Hein, l'expression d'ailleurs vient de, une fois de plus, de Julian Huxley. L'autre chose est que le vrai danger, et qu'on voit très bien dans le film de film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bienvenue à Gattaca, ce serait de supprimer donc par eugénisme positif ce qu'on croit être certain, et il y a des maladies dont on est certain, les bases génétiques. Ça c'est une chose. Simplement, on a très peu de gènes. Et nos gènes sont combinés avec d'autres gènes. Donc on ne sait pas dans quoi on va mettre les mains dans cette affaire-là. Et puis surtout, vous imaginez, au gré des modes, de vouloir implanter tel ou tel gène, de bricoler, d'avoir des enfants qui se ressemblent les uns les autres. Et on sait, dans les études d'ailleurs que l'on a aujourd'hui de e-marketing, qu'en général, quand des gens font quelque chose sur Internet ou sur le web, ils proposent par exemple un objet, on s'aperçoit que quand on demande aux autres, tout ce qui est original est éliminé. Donc là, c'est un vrai danger pour l'avenir de l'espèce parce que nous perdrions de la diversité pour nous adapter. En ce qui concerne la maladie, donc je suis désolé, c'est l'essence de la médecine quand même que quand même d'éviter les maladies, d'avoir la prévention ou autre.
Mais quand, vous posez d'autres questions très troublantes. Oui. Qu'est-ce qui se passera par exemple dans la famille, dans la société, si tout le monde s'arrête de vieillir à 25 ans?
Ah bah ça, c'est un excellent film qui s'appelle Time Out, où là, en effet, ils ont été capables de toucher à l'horloge biologique. Or, soyons clairs, on ne connaît pas les gènes. On appelle ça, pardon pour le terme, les hétérochronies. Hétéro et temps. Ça veut dire que entre les espèces, en moyenne toujours, les temps de la grossesse, enfin donc de la gestation, du sevrage, de l'arrivée de l'adolescence et de l'âge adulte, après l'espérance de vie, eh bien, sont très différents. Et ça a été sélectionné au cours de l'évolution. Sauf qu'on ne sait pas, il n'y a pas de gènes. Pour donner une comparaison, on connaît les gènes qui font que nous avons un corps avec des yeux à un endroit, les pieds à un autre, et nous sommes à peu près symétriques avec des petites variations, le cœur d'un côté, le foie de l'autre, etc. Là, on connaît les gènes, ça s'appelle les gènes homéotiques. On ne connaît pas les gènes qui régulent sur les temps de vie. Donc c'est au-dessus du gène, c'est épigénétique, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et derrière cela, vous imaginez la révolution anthropologique. Là où je rejoindrai en partie tout de même mon ami Jean-Michel Beignet, c'est que nous vivons une période absolument exceptionnelle. On a 5 générations qui vivent en même temps. Moi-même, je suis grand-père depuis peu de temps, je sais dire, c'est un vrai bonheur. Et je continue à être à moto. Donc, je conserve une certaine jeunesse, mais j'accepte quand même mon âge et j'essaie de, quand même de me maintenir. Je ne fais pas tout bien, mais j'essaye. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une vraie jouissance autour de ça. Et dans le film Time Out, dans cette fiction qui est assez extraordinaire d'ailleurs, les gens sont payés en temps de vie. Donc, s'ils ont du succès pour leur diplôme, leur travail, etc., ils ont plus de vie. Mais ils ont toujours l'aspect physique de 25 ans. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on pouvait faire ça, ce serait une révolution anthropologique majeure où tout ce qui est lié à l'intergénérationnel, à la transmission, etc., disparaîtrait. Et là, effectivement, nous ne serions plus des humains comme on l'a été depuis 2 millions d'années.
Pascal Pic, je pense que vous connaissez la tradition de cette émission. On demande à l'invité du jour de poser une question à l'invité du lendemain. Hier, nous avons parlé de la façon dont les nouvelles technologies ont révolutionné l'archéologie. L'un de nos invités, Ronan Gogne, ingénieur de recherche en informatique, a donc une question pour vous.
Aha. Alors, les nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle, la réalité mixte ou les interfaces robotisées permettent de plus en plus d'augmenter les capacités de l'être humain. On parle de plus en plus d'hommes augmentés. Pensez-vous qu'on approche d'une révolution des capacités humaines? Et pensez-vous que ce sera plutôt pour le meilleur ou pour le pire?
Alors, votre réponse, Pascal Pic. Alors,
comme pour toute technologie, ni meilleure ni pire, c'est pour ça qu'effectivement, il y a énormément de discussions d'un point de vue de l'éthique et de ces questions qu'on a soulevées sur la maladie, la procréation et la vieillesse. Maintenant, soyons très clairs, je trouve qu'il est extrêmement dangereux. Mon objection principale sera celle-ci, c'est que je crains énormément que nous ne sombrions dans ce que j'appelle le syndrome de la planète des singes. C'est quoi cette affaire-là? J'en parlais déjà dans mon livre précédent. En gros, nous sommes des machines qui sont faites pour fonctionner. On sait qu'aujourd'hui, bien vieillir, c'est tant que faire se peut, bien fonctionner. Bonne alimentation sur le plan affectif, culturel, familial, amical et bien sûr professionnel, en tout cas des activités intéressantes. Ça, c'est une chose. Or, la génération des baby-boomers, à laquelle j'appartiens tout juste, je ne vais pas entendre dire qu'on était les meilleurs du monde, on ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait, mais nous avons, en moyenne, connu une évolution positive comme jamais dans l'histoire de l'humanité. On a quasiment accompli le projet progressiste de Condorcet. Et là, aujourd'hui, nous assistons avec ces machines. Le vrai danger, ce n'est pas que ces machines vont prendre le pouvoir, avec l'intelligence artificielle, le vrai danger est que c'est ce que nous allons abandonner. C'est-à-dire l'activité civique, physique, l'activité cognitive, l'activité affective. Il y a même des gens qui considèrent que c'est beaucoup mieux, notamment au Japon, de faire l'amour avec des sexbots, donc des robots sexuels. Parce que c'est moins compliqué d'avoir affaire à des femmes ou des compagnons ou des hommes, etc. Et si tout ça s'accentue, du coup, c'est pas les robots ou les machines qui vont prendre le pouvoir. Nous allons complètement nous abandonner. Et dans la nouvelle de Pierre Boulle de 1963, donc personne ne l'a vu ça, ça n'a jamais été mis dans les films, c'est chapitre 8, c'est pour ça que je l'appelle le syndrome de la planète des singes, en raison de la facilité que nous apporteraient les machines et ces nouveaux environnements technologiques, parce qu'aujourd'hui, comme vous savez, vous rentrez dans nos maisons, ce qu'on appelle les agents conversationnels, c'est-à-dire qui nous permettent de communiquer, d'aller chercher des informations et de nous aider, eh bien, plus nous aurons de facilité, plus nous abandonnerons et nous délèguerons ces aptitudes physiques et cognitives et affectives aux machines, plus nous nous mettrons en danger. Donc pour moi, le vrai danger est là.
Donc ce là, serait une servitude consentie par rapport à la machine.
Ce qu'on appelle la servitude volontaire, la Boétie, effectivement. Et là, aujourd'hui, tous les indices vont plutôt mal. Je sais, je me fais tenser à chaque fois par les jeunes générations, quand je dis ça, ils ont l'air de dire « Ah ouais, mais vous, les baby-boomers, vous croyez avoir tout fait ?» Non, c'est pas du tout mon propos. Sauf qu'on voit qu'aujourd'hui, l'espérance de vie est en train de régresser. L'activité régresse. L'obésité augmente. L'espérance de vie diminue.
Fertilité baisse.
La fertilité, c'est catastrophique. Il y a un problème, et on connaissait très bien ça en anthropologie, mais là, ça se manifeste de manière générale. On a une féminisation du monde. J'ai rien contre... c'est pas contre l'égalité homme-femme, c'est pas du tout mon propos. Mais d'un point de vue hormonal, aujourd'hui, les jeunes filles atteignent leur puberté beaucoup plus tôt qu'avant. Avant, c'était vers la fin du collège de ma génération. Aujourd'hui, elles arrivent au collège déjà pubères. Donc on a des transformations énormes aujourd'hui. Et moi, je suis très surpris parce que on parle, comme on l'a dit jusqu'à présent, de la nénétilité, combattre la vieillesse, etc. Alors qu'on voit pas qu'en moyenne, une partie la moitié des populations occidentalisées sont dans des difficultés majeures dont on ne parle pas du tout, même d'un point de vue des technologies. Et ça, c'est quand même dramatique.
Punk, Robot Rock sur RFI. Autour de la question, nous sommes toujours en compagnie du paléo-anthropologue Pascal Pic. Alors, la machine peut-elle être plus intelligente que l'homme? Le champion du monde de jeux de Go en a fait la meilleure expérience en affrontant en mars 2016 AlphaGo, machine de DeepMind, filiale de Google. C'est un reportage du journal télévisé de France 3.
À la droite de l'écran, le champion du monde de jeux de Go marque son impuissance. Il vient de perdre à nouveau face à un ordinateur. Hier soir, chez lui en Corée du Sud, Lee Sedol s'est incliné dans cette manche décisive.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est ma défaite. Mais ce n'est pas la défaite de l'humanité.
Il a fallu un peu plus de 4 heures pour AlphaGo, c'est le nom du programme informatique conçu par Google pour venir à bout du meilleur joueur de Go de la planète. Une victoire qui surprend même les concepteurs de cette intelligence artificielle.
Pour être tout à fait honnête, nous sommes stupéfaits, sans voix. Lissidol a perdu une nouvelle fois de manière incroyable. AlphaGo a exploré de nouveaux territoires.
Il y a 20 ans, Kasparov, le champion d'échecs, perdait pour la première fois face à une machine IBM. C'était à l'époque la puissance du calcul qui faisait la différence. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va au-delà avec le jeu de Go, où il existe 10 puissances 100 fois plus de possibilités que dans le jeu d'échecs.
Cette machine, justement, elle a deux capacités. La première, c'est d'apprendre à partir des parties qui ont été jouées et d'extraire la substantifique moelle de ces parties, de voir comment les gens jouaient. Puis la deuxième chose, c'est qu'elle réfléchit au sens étymologique, c'est-à-dire qu'elle est capable de revenir sur elle-même, de refaire des parties, de jouer contre elle-même et de s'améliorer par ce travail.
Il ne reste plus que l'honneur de l'homme à sauver.
Alors, faut-il avoir peur des robots et de l'intelligence artificielle ? La réponse du philosophe Michel Serres, interrogé par nos confrères de France 2.
Écoutez, ça dépend de ce qu'on appelle un robot. Si on appelle un robot ces machines extrêmement sophistiquées qu'on voit dans les chaînes d'usines, bon, ben voilà, elles sont en route, elles nous aident, etc. Si on n'entend pas robot, cette personne qu'on rencontre dans la rue ou dans le travail, qui ressemble à un homme et on ne peut pas distinguer si c'est un homme ou une machine, alors là, j'ai évidemment terrifié, mais il me semble quand même que c'est un cauchemar. Je ne voudrais pas être bêtement optimiste, mais la technophobie me fait quelquefois rire. Si l'humanité doit disparaître, et c'est un problème sérieux, ce sera certainement pour d'autres raisons. Mais pour l'intelligence artificielle, je doute. Voilà. Humain, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire faire partie de Homo sapiens, mais ça veut dire aussi la bonté, l'humanité. Et c'est-à-dire cette espèce de sensibilité, cette espèce de aménité, ou même de haine, si vous voulez, des sentiments en général, eh bien, ce robot n'en éprouve pas. Et au bout d'un certain temps, c'est vraiment sensible, c'est vraiment visible. Et alors, c'est terrifiant. Vous savez, une personne totalement intelligente et totalement rationnelle est un monstre.
Pascal Pic, Michel Serres avoue que la technophobie le fait parfois rire. Est-ce qu'elle vous fait rire aussi ?
Oui, parce que un masque, exactement ce qu'il faudrait bien voir. Pour revenir sur AlphaGo. Donc, AlphaGo, d'ailleurs, il y a une réflexion du commentateur en français qui dit la substantifique moelle. Non, la machine ne comprend pas qu'elle joue au jeu de Go. Mais pour vous dire comment ça se passe, c'est que cette machine utilise plusieurs technologies. Je ne vais pas entendre dans les détails, parce qu'il y a plusieurs technologies d'apprentissage et de jeu, mais ça va beaucoup plus loin. Depuis, maintenant, il y a une machine qui s'appelle, toujours chez DeepMind, Alpha 0, avec une étape intermédiaire qui était AlphaGo 0. Cette machine, l'année dernière, en 2 heures, mais sans cette fois être nourrie par des parties. On ne lui a pas donné les parties des autres joueurs. On lui a donné simplement les règles du jeu d'échecs chinois, qu'on appelle le shogi. En 2 heures, elle a battu toutes les meilleures parties du monde et tous les meilleurs programmes. En 4 heures, les jeux d'échecs. Et en 24 heures, elle a battu AlphaGo qui a battu Lissidol. Alors là, oui, en effet, ces machines ne sont pas plus intelligentes au sens du terme où elles ont une réflexion comme nous, mais elles fonctionnent sur des modèles en boucle, comme c'est expliqué, de rétroaction qui leur permet d'apprendre extrêmement vite et de mémoriser. Et en ce sens, elles sont déjà meilleures que nous. Ce qu'il faut bien comprendre avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle ne va pas être meilleure que nous, mais elle va être meilleure que nous dans certains domaines. Donc dans les domaines notamment, qui sont ce qu'on appelle de l'induction, c'est-à-dire traiter des données massives et en ressortir des éléments de compréhension ou des schémas donc cohérents. Et là-dessus, les machines sont déjà meilleures. C'est déjà chez nous. On l'utilise en médecine, on l'utilise dans le monde du droit, etc. Donc il ne faut pas avoir peur, ce sont des assistants. Quant aux robots, en effet, je n'ai pas répondu à la question de mon collègue archéologue. L'homme augmenté, ça existe déjà. Lorsqu'on voit les exosquelettes, notamment tout ce qui se fait autour des handicapés, des paraplégiques, il y a un exemple qui est assez connu.
Oscar Pistorius, par exemple, aussi.
Oscar Pistorius, c'est un très bon exemple.
Il rivalise avec les athlètes valides.
Exactement. Et vous savez quoi ? Moi, je pense que dans les 10 ans qui viennent, les Jeux Olympiques, ça va être complètement mélangé avec des personnes qui seront plus ou moins augmentées. D'ailleurs, c'est amusant l'histoire d'Oscar Pistorius, parce qu'aux Jeux Olympiques de Londres, il a fait une compétition avec les valides, entre guillemets, enfin donc des gens non handicapés. Et là, il s'est dit, j'y crois. Et après, il y a les Jeux paralympiques. Alors, il s'est dit, comme ça, petit biais psychologique, comme j'étais chez les gens normaux, bon, j'ai pas besoin de m'inquiéter chez les handicapés. Ben, il s'est fait gratter par quelqu'un d'autre, puisqu'évidemment, il y avait quelqu'un qui s'était entraîné avec des technologies différentes. Ça va poser des problèmes de contrôle, de validation et de normes, mais en tout cas, on y va tout droit. Maintenant, par rapport à ce que disait Michel Serres, il faut savoir que dans les usines aujourd'hui, et ça existe déjà en France, c'est pas que les robots que l'on voit d'ailleurs dans Terminator, dans la scène finale du premier film, qui sont extrêmement précis, mais qui, eux, sont dans des cages, ils ne bougent pas. Aujourd'hui, vous avez des robots qui interagissent avec les personnes, les techniciens, les ouvriers et les ouvrières sur les sites de montage. On les appelle les cobots, des robots collaboratifs, et sur des usages et des métiers très techniques, comme par exemple la menuiserie. Donc là, c'est déjà là. Maintenant, l'autre aspect... Et pour non pas rassurer, parce que la technophobie nous fait pas comprendre les différences entre les intelligences artificielles humaines ou même animales, par exemple, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec. Hans Moravec est un des très très grands spécialistes au monde sur la robotique et l'intelligence artificielle. Or, que sait-on ? C'est que les machines font mieux que nous des choses qui sont compliquées pour nous. Par contre, elles ont beaucoup de mal à faire des choses qui sont simples pour nous. C'est-à-dire nous battent aux échecs, nous battent aux jeux de Go, même s'il y a des combinaisons absolument hallucinantes. Mais ça, ce sont des domaines quand même de l'ordre de l'itératif, du calcul. C'est, même si le nombre de possibilités aux jeux de Go est astronomique, le système ne peut pas aller au-delà. Et là, les machines, avec la puissance de calcul et les différents systèmes d'intelligence artificielle, savent le faire. Maintenant, on sort de la Coupe du Monde de football... Je peux vous dire qu'un robot qui bat mon petit-fils de 5 ans au foot, il n'est pas prêt d'arriver. Et c'est ce qu'on appelle l'ingénierie inverse. Ce qui veut dire quoi ? C'est-à-dire que, en définitive, les machines font les choses qu'on a inventées le plus récemment, plus facilement, elles ont été faites pour ça, que par exemple des choses qui nous sont simples, qui sont du domaine de l'évolution, de la bipédie, mastiquer, aimer, etc. Eh bien ça, c'est pas demain la veille.
En tout cas, le débat n'est sans doute pas prêt de s'éteindre, tant les avis sont tranchés sur l'intelligence artificielle et la perspective de voir...
Je me permets de dire les intelligences
artificielles, absolument. Et la perspective de voir un jour les robots devenir plus forts, plus brillants que leurs créateurs. L'astrophysicien britannique Stephen Hawking, disparu en mars dernier, tirait la sonnette d'alarme en 2016 sur la BBC.
Je pense que le développement de l'intelligence artificielle peut mettre fin à l'humanité. À partir du moment où les hommes continuent de développer l'intelligence artificielle, elle pourrait évoluer d'elle-même et se redéfinir à un rythme que les humains, limités par l'évolution biologique, ne pourraient pas suivre. L'homme pourrait donc être dépassé.
Pascal Pic, vous dites que l'intelligence humaine procède d'une très longue évolution environnementale et sociale, donc ce qui n'est pas le cas des robots. Donc c'est pourquoi nous gardons donc une longueur d'avance. Vous n'êtes pas aussi pessimiste que Stephen Hawking.
Non, on ne garde pas une longueur d'avance. Nous gardons de formidables facultés qui ne sont pas prêtes d'être atteintes par les machines dans certains domaines, mais pas dans tous. En gros, que se passe-t-il ? C'est que ces machines sont conçues. J'ai encore lu une interview récemment quelqu'un qui disait ah ben ces machines en fait elles sont pas si notre cerveau pardon n'est pas si intelligent que cela parce qu'on a du mal à résoudre des équations du troisième degré, des choses comme ça. Ouais, mais attendez, ce sont des problèmes que se posent les humains, ce sont pas des problèmes qu'on a eu dans notre évolution. Donc il faut revenir quand même sur les fondements de ces interrogations. La chose importante, c'est que Stephen Hawking, avec tout un, il y a monsieur Elon Musk, il y a un groupe qui s'est mis en place, il y a beaucoup de groupes éthiques en ce moment qui se posent la question des robots tueurs. Ça, c'est un vrai problème avec les drones tueurs. Vous savez qu'on va rentrer dans un monde de drones complètement hallucinant. Hein, c'est toujours le même schéma dans l'évolution de technologie. Vous avez d'abord des nouvelles machines qui arrivent dans le domaine militaire, les drones, et ensuite, vous avez les jouets. Ensuite, c'est entre les deux. Et c'est ça qui est en train d'arriver. Et là, évidemment, les véhicules autonomes, tout ce qui est en train d'arriver, utilisent l'intelligence artificielle, ça va aller très vite. La vraie question est, que se passe-t-il si on met en place des drones ou des robots tueurs qui seront capables de prendre une décision eux-mêmes et d'apprendre, et qui seront partis d'eux-mêmes. Or, de considérer que des machines peuvent partir dans des domaines d'intelligence qui leur sont propres, c'est déjà le cas. C'est pour ça que je vous ai parlé d'AlphaGo, AlphaGo 0 et AlphaZero. Donc cette machine ne peut jouer contre elle-même aujourd'hui. Elle n'a plus aucun humain contre lequel se rivaliser, sauf qu'elle n'est pas dangereuse. Maintenant, vous imaginez la même chose avec des armes sophistiquées. Alors vous savez, c'est comme l'arme atomique, hein. On a beau faire des mémorandums, de toute façon ça va se faire. Et là, il y a un vrai danger. Mais ce danger, c'est pas les machines en elles-mêmes, c'est parce qu'on les fera nous-mêmes et qu'elles seront On l'espère que non, mais avec le risque d'être hors de contrôle.
Alors il y a un autre scientifique, Joël de René, qui préfère lui voir dans l'intelligence artificielle une opportunité pour l'homme.
Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? On en parle énormément, surtout depuis qu'en décembre 2014, Bill Gates, Elon Musk et Stephen Hawking, qui ne sont pas des petites pointures, ont déclaré que c'était la pire des choses pour l'humanité, que l'intelligence artificielle, surtout en apprenant elle-même, allait transformer l'humanité en esclavage. Moi je dis qu'ils se trompent complètement. Parce qu'ils n'ont pas compris, me permet de le dire, que le mariage de la biologie et de l'informatique fait que nous, en symbiose avec l'intelligence artificielle, avec les robots et avec cet écosystème numérique qu'on a créé, qu'on appelle encore Internet, en symbiose avec ces trois éléments, nous allons aller vers une intelligence augmentée, pas une intelligence artificielle, mais une intelligence augmentée, collective ou collaborative, utilisant ce que l'intelligence artificielle et la robotique nous apportent. Donc c'est un véritable changement d'état de l'humanité que j'appelle l'hyperhumanisme.
Pascal Pic, l'hyperhumanisme de Joël de René ne vous paraît pas un peu utopique?
Non, parce que Joël de René, depuis 20 ans, nous annonce des choses et elles arrivent. Et là, surtout, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le syndrome de la planète des singes. Et là, c'est pas d'opposition avec mon ami Joël de René. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces intelligences artificielles, ces robots et ces machines, il faut qu'elles soient qu'elle crée des espaces coévolutifs, c'est-à-dire qui stimulent de plus en plus nos activités cognitives, nos activités physiques, améliorent notre santé, etc. Si nous demandons aux machines de se substituer à nous pour ces activités, comme je disais tout à l'heure, et si nous nous mettons dans ces situations de se dire « Ah bah oui, AlphaGo nous bat au jeu de Go, on est foutu », non, c'est pas vrai, parce que c'est qu'une partie... Franchement, est-ce que tout le monde joue au jeu de Go tous les jours parmi les auditeurs? Je pense pas que c'est quelque chose quand même de dramatique, d'accord? C'est plus embêtant pour les joueurs de Go, les joueurs de Go. Mais ils vont apprendre aussi. Lissédol, il a dit, je m'y remets. Donc, vous voyez, ça va augmenter ses capacités. Donc, moi, je suis pas un optimiste, et je pense pas que Joël de René soit un optimiste utopiste, mais en l'occurrence, il faut que nous ayons une véritable réflexion, c'est comment continuer à déployer, à améliorer, augmenter nos capacités dans la limite de non-transformation qui peuvent être dommageables dans ces nouveaux environnements donc d'intelligence, de simulation. Et donc en ce sens, mais ça arrive en médecine. Vous savez, en gros, qu'est-ce qu'ils nous proposent, les transhumanismes? C'est de faire sortir des hôpitaux ce que l'on fait pour les tétraplégiques, les handicapés et autres. Et que des gens disent, eh ben, écoutez, nous aussi, on voudrait ça, même si nous ne sommes pas handicapés, même si on n'est pas malade, on voudrait augmenter nos capacités. Eh bien, si ça rentre dans des règles éthiques qui sont consenties par la société, je ne vois pas où est le problème. Et là, j'adhère à ce que dit mon ami Joël de René.
Monsieur Martin, vous voulez donc que nous adoptions un décret visant à vous déclarer comme étant un être humain?
Oui, et en particulier, être habilité à épouser un autre être humain.
Je vois. On ne peut contourner les faits. Quelle que soit votre ressemblance avec les êtres humains, vous ne faites pas partie de notre patrimoine génétique. Vous lui êtes totalement étranger. Vous êtes autre chose. Une chose artificielle.
Monsieur, que faites-vous des humains dûment inscrits au patrimoine qui ont des prothèses dans tout le corps, prothèses dont j'ai inventé un grand nombre? Vous-même avez reçu un rein de mon invention, n'est-ce pas? N'êtes-vous pas d'une certaine façon artificiel, au moins en partie?
En partie, je le suis.
Alors je suis humain en partie.
Quelle partie, Andrew?
Celle-ci, monsieur.
Je vois. Et celle-ci?
Je reconnais que je suis toujours muni d'un cerveau positronique.
Et du fait de votre cerveau positronique, vous êtes, à tout point de vue, immortel.
Oui, monsieur.
Eh bien, Andrew, la société peut s'accommoder d'un robot immortel, mais nous ne pouvons pas tolérer un immortel humain. Cela ferait naître trop de jalousie, trop de colère. Je regrette, Andrew. La Cour ne peut ni ne doit entériner votre humanité. Je déclare cette instruction close. Il est arrêté aujourd'hui par la Cour que Andrew Martin sera dorénavant déclaré comme étant un robot, une machine mécanique et rien de plus.
L'on est heureux de pouvoir servir.
Un extrait du film L'homme bicentenaire de Chris Columbus avec Robin Williams. Et cette question finalement, à quel moment un être humain augmenté devient-il un robot et à quel moment un robot devient-il un être humain ?
Parce qu'à à partir du moment où la réplique du Rhin est absolument extraordinaire. Néanmoins, on voit bien comme tout ceci va devenir extrêmement compliqué. Mais on a connu des situations comme ça en anthropologie. À une époque, on se posait la question, ça va être brutal ce que je vais dire, mais est-ce que les populations pygmées, ou Aka, donc d'Afrique, appartiennent à l'espèce humaine ? Et vous savez quoi ? C'est toujours le critère d'interfécondité qui est arrivé. Il y a eu un très bon film de Régis Varnier qui n'a pas eu beaucoup de succès en France parce qu'il nous mettait mal à l'aise avec le racisme occidental au moment où naît l'anthropologie à la fin du XIXe siècle. Et c'est aussi dans le livre qui est excellent, que tout le monde a oublié, « Les animaux dénaturés » de Vercors. Et là, pour montrer que ce sont vraiment des humains ou ces pygmées ou ces hottentots ou d'autres, qu'importe, c'est que un des protagonistes fait un enfant à une femme de cette population ou l'inverse. Et là, comme on a un enfant viable, c'est quoi ? Ben c'est le critère biologique de l'espèce biologique. Et c'est très intéressant ça, parce que c'est ce qui est au cœur justement et l'ambiguïté des deux films de Blade Runner.
On a entendu un extrait tout à l'heure au début de l'émission.
Exactement. Et là, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent procréer. Et si vous prenez le critère, non pas du cerveau et l'intelligence positronique, mais le critère d'interfécondité, à partir de là, ce sont des humains. Et là, c'est un débat qui est quand même extrêmement important que l'on a aujourd'hui avec le droit des animaux. Faut-il étendre les droits de l'homme aux grands singes ? Eh bien, vous avez des grands débats aujourd'hui là-dessus. Isabelle de Fontenay, par exemple, et j'adhère à cette idée-là, toute personne qui est issue de gamètes humains est humain, handicapé ou pas. Mais vous avez d'autres approches dans le monde anglo-saxon qui disent, attention, un chimpanzé qui est sain de corps et d'esprit, si je peux me permettre, a peut-être plus de valeur pour obtenir les droits humains qu'un handicapé de notre espèce. Ça peut être choquant, mais en tout cas, ce sont des débats aujourd'hui. Et donc, vous voyez, les robots vont reposer cette question que nous avons dans l'anthropologie.
Alors, justement, vous notez dans votre livre, Pascal Pic, que l'Europe a rejeté la possibilité d'accorder aux robots un statut juridique en tant que personne morale, mais que d'autres pays du monde n'ont pas cette réticence. On va prendre l'exemple de l'Arabie Saoudite, comme en témoigne ce reportage d'Alain de Chalvron sur France 2, le 29 octobre dernier.
I'm Sophia, the latest robot from Hanson Robotics.
Sophia est la vedette d'un salon high-tech en Arabie Saoudite. Un robot doté d'une intelligence artificielle sous la peau de silicone. Il n'y a que de l'électronique. Sophia est la dernière coqueluche du royaume, au point de se voir offrir la citoyenneté saoudienne par le roi Salman.
Je voudrais remercier le roi. C'est historique d'être le premier robot dans le monde à être reconnu comme citoyen.
Paradoxe. Sophia est donc la seule saoudienne autorisée à sortir non voilée. Le royaume est encore très strict sur cette question. La police religieuse veille.
Qu'est-ce que cela vous inspire, Pascal Pic ?
Eh bien, ça m'inspire quelque chose d'extrêmement troublant. Un pays où on le sait très bien, ça commence à bouger, mais bon, c'est très lent, sur les droits des femmes.
Elles peuvent conduire maintenant, elles peuvent devenir notaires.
Mais quand même, c'est incroyable parce que ces robots sont capables de conduire bientôt avec les voitures autonomes. Donc je pense que ça ne va pas durer longtemps, malheureusement. Mais là, c'est quand même assez troublant. Et tout de même, je ne sais pas ce que pensent ces femmes saoudiennes, mais en l'occurrence, de voir qu'une machine se voit octroyer plus de droits, en tout cas équivalent pour le moins, à des femmes, c'est quelque chose d'extrêmement humiliant. Maintenant, on va revenir sur quelque chose de plus anthropologique. En France, il y avait une entreprise absolument magnifique, et qui l'est toujours, mais elle est plus française, qui s'appelle Aldebaran, ou Aldebaran, on dit les deux, Robotics. C'est eux qui ont créé ces trois robots assez connus du grand public, qui sont Pepper, Nao et Roméo. Or, ils avaient, dès le départ, créé des robots, donc, dits émotionnels, en tout cas, qui sont capables de lire nos émotions et d'interagir avec nous. Seulement, ils n'ont pas trouvé leur marché en France. Et ils ont été rachetés par un géant dont on parle très peu malheureusement en France, qui s'appelle SoftBank au Japon. Et ils ont reprogrammé et développé ces robots qui sont ce qu'on appelle des robots donc sociaux et affectifs. Qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les restaurants, etc. etc., etc.
Qui s'occupent des personnes âgées.
Et qui s'occupent des personnes âgées. Alors là, c'est un autre qui s'appelle Parrot, etc. Or, c'est intéressant puisque Un des grands enjeux autour de ça, c'est bientôt les robots avec l'intelligence artificielle qui pourront interagir avec nous, comme on l'a un petit peu esquissé tout à l'heure. Or, les Japonais sont animistes. C'est-à-dire, d'un point de vue anthropologique, leur conception du monde et la différence, l'altérité, fait que pour eux, un animal ou une machine est investi des mêmes propriétés humaines. J'insiste, c'est pas l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, ça, c'est chez nous, les Occidentaux, où on attribue des capacités humaines à une machine ou à un animal. Là, c'est pas du tout. On est tous pareils. Et on change que sur la forme. Et donc, de fait, pour les Japonais, pour les Coréens, vous savez qu'il y a la première charte des robots qui a été publiée en Corée du Sud. Donc en Asie, il y a un mouvement animiste qui font, et c'est pas hasard d'un point de vue anthropologique, c'est la meilleure école du monde sur l'étude des animaux, notamment l'éthologie et les chimpanzés, et ce sont les plus en avance sur l'incorporation de ces robots affectifs et donc et émotionnels dans leur monde. Et nous, en France, nous restons cartésiens. Nous avons de formidables scientifiques en intelligence artificielle, en robotique et même en éthologie. On a des gens absolument formidables, mais on n'a pas d'école vraiment constituée. Et doyez, comme quoi Descartes, aujourd'hui, nous coûte cher, parce que même dans les industries, Michel Serres l'évoquait, nous sommes un pays très peu robotisé, deux fois moins qu'en Allemagne et un tiers de moins qu'en Italie. Donc vous voyez comme quoi l'anthropologie est toujours là. Et ces dialogues qu'on a entendu, ce débat qu'on a entendu là tout à l'heure, à travers ce robot qui veut avoir un statut humain, écoutez, on l'a dans Mary Shelley, on l'a Pourquoi m'as-tu créé sans me donner un nom, sans avoir une âme? On a aussi dans Les animaux, le docteur Moreau. C'est un vrai problème existentiel, et même dans le film Ghost in the Shell, qui est bon, un petit peu moyen le film en tout cas, mais l'idée est là. C'est comment ces machines qui sont en interaction avec nous, qui sont capables de lire nos émotions, etc., pourquoi à un moment ou à un autre, elle ne sera pas capable elle-même de les comprendre et plus ou moins de les restituer. Ça, c'est les nouveaux problèmes éthiques d'anthropologie auxquels on va avoir affaire.
Autour de la question sur RFI.
Alright, la nouvelle chanson de Jane, prélude à son deuxième album qui sortira le 24 août. Pascal Pic, on a presque fini cette émission déjà. La conclusion de votre livre, c'est qu'il faut construire un nouvel humanisme que vous appelez panhumanisme. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Eh bien, c'est parce qu'il va falloir que nous soyons extrêmement rapides pour comprendre les autres intelligences, celles des animaux, pour mieux comprendre les intelligences artificielles. Et bientôt, vous savez, on va avoir des traducteurs automatiques. Vous vous baladerez en Mongolie, vous pourrez avoir une conversation avec un Mongol ou partout dans le monde. Et moi, je prends le pari que bientôt, on va pouvoir encore mieux communiquer avec les animaux. Et Pan, c'est le nom scientifique du chimpanzé, mais c'est aussi Pan, le dieu du panthéon grec, qui unifie, qui est capable de mettre les choses ensemble. Et c'est le seul qui est mi-homme et mi-animal. Il bat Hermès, d'ailleurs, dans une compétition à la flûte. Et ben c'est ça, panhumaniste, c'est-à-dire créons une humanité qui n'a pas peur des autres intelligences et qui est capable d'être aussi dans un nouvel environnement, dans ce que j'appelle l'espace des intelligences animales, humaines et artificielles.
Donc une cohabitation harmonieuse.
Pas cohabitation, c'est que nous coévoluons ensemble. Pas cohabiter, pas à côté. C'est que nous puissions développer de nouvelles capacités cognitives, sensibilité, relations entre des entités, ça s'appelle l'altérité, mais aussi dans un environnement urbain et naturel.
Merci beaucoup Pascal Pic d'avoir été notre invité. Je rappelle que votre livre « Le nouvel âge de l'humanité, les défis du transhumanisme expliqués à une lycéenne » est publié chez Alary Éditions. Merci également à Sophie Janin et Caroline Fillette qui m'ont aidé à préparer cette émission et à Boris Vichit qui l'a réalisé. À bientôt et surtout, restez curieux.
Contactez autour de la question @rfi.fr.